Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Il y a 5 ans, vous vous en souvenez peut-être, le candidat à la présidence de la République, François Hollande, disait ceci.
Mon véritable adversaire, il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
C'était 4 ans après la crise financière mondiale à laquelle Nicolas Sarkozy réagissait ainsi au mois d'octobre 2008.
Il est maintenant acté que c'est la défaillance de la régulation qui est à l'origine de la crise financière.
Crise financière à cause du manque de régulation, le constat était partagé par le Premier ministre britannique de l'époque, Gordon Brown, le 21 septembre 2008.
Ce dont nous avons besoin, ce sont des règles internationales. Je crois que la leçon de cette crise financière, c'est que nous sommes dans une nouvelle économie, une économie financière globale. Le monde change très vite, mais les gouverneurs du système financier mondial n'ont pas suivi. C'est ce qui doit changer. Nous avons besoin de ce système de régulation. C'est la réponse que doit préparer et apporter chaque pays. Nous sommes un gouvernement pro-business. Nous aiderons le monde des affaires au mieux si nous rectifions ce qui a mal tourné.
Un an plus tard, Barack Obama appelait le monde de Wall Street à la retenue.
Nous ne reviendrons pas aux comportements insouciants et aux excès incontrôlés qui ont été au cœur de cette crise. Une époque où trop nombreux étaient ceux qui étaient motivés seulement par des gains rapides et des primes énormes. Vous, à Wall Street, vous êtes responsable. Vous n'avez pas à attendre qu'une loi soit adoptée pour faire en sorte qu'on soit récompensé pour ses performances à long terme et non plus pour des bénéfices à courte vue.
Mais à Paris, la réforme bancaire promise par François Hollande après la crise n'allait pas aussi loin que prévu, forçant le ministre des Finances, Pierre Moscovici, à se défendre.
Tous les syndicats m'ont dit, la banque, c'est un employeur important en France, 400 000 personnes, nous ne voulons pas qu'on casse le modèle de banque universelle. Pourquoi aurais-je fragilisé le système bancaire français? Moi, je ne suis pas là pour appliquer de manière dogmatique certaines rêveries idéologiques, je suis là pour réformer audacieusement dans le sens de ce qu'a voulu le président de la République.
Alors, 10 ans après le discret début d'une crise des subprimes qui devait quelques mois plus tard bouleverser la finance et l'économie mondiale, où en est-on aujourd'hui? A-t-on tiré toutes les leçons de ce qui s'était passé alors? Quelle place occupe la finance dans l'économie mondiale? La régulation financière a-t-elle fait des progrès? Et une nouvelle crise est-elle possible? Voilà les questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Pierre-Yves Collombat.
Bonjour.
Pierre-Yves Collombat, vous êtes sénateur socialiste du Var, vice-président de la commission des lois du Sénat et membre de la délégation à la prospective. C'est au nom de cette délégation que vous avez rédigé un rapport d'information intitulé « Une crise en quête de fin ». La crise dont vous parlez dans ce document, c'est la crise de 2008. Est-ce que c'est un rapport à charge pour le monde de la finance que vous avez voulu préparer ?
Si ça avait été un rapport à charge, je serais passé à côté de mon intention. Mon intention, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, savoir où on en est, et essayer d'imaginer les évolutions possibles.
On en parlera dans l'émission. Avec nous dans ce studio également, Thierry Philippona, bonjour.
Bonjour.
Thierry Philippona, après avoir été banquier, vous avez participé à la fondation à Bruxelles de l'ONG Finance Watch. Aujourd'hui, vous êtes membre du Collège de l'Autorité des Marchés Financiers, l'AMF, le régulateur de la place de Paris, et vous dirigez maintenant aussi l'Institut Friedland, le centre de réflexion économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Vous venez par ailleurs de publier un livre intitulé « Le capital de l'abondance à l'utilité ». C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. C'est un livre d'une 100aine de pages dans lequel vous mêlez grandes données macroéconomiques et explications des techniques financières. Pourquoi ce mélange ?
Ce mélange parce que l'analyse de fond et la conviction de fond, c'est que la finance, c'est un outil. C'est un outil pour alimenter l'économie et la société. Et donc, il m'a semblé intéressant de regarder en quoi la pratique et les techniques financières pouvaient alimenter l'économie et dans quelle mesure elle arrivait à le faire.
Alors, au cours de cette émission, nous avons rendez-vous avec les correspondants de RFI à Berlin, Pascal Thibault, et à Washington, Pierre-Yves Dugas, ainsi qu'avec David Bavrez, auteur d'un livre consacré à la Chine, Paris-Pékin Express. Pierre-Yves Colomba, je rappelais tout à l'heure le titre de votre rapport, Une crise en quête de fin. Est-ce que ça veut dire que la crise de 2008 n'est pas terminée aujourd'hui ?
La crise de 2008 n'est pas terminée, elle s'est calmée au niveau financier, proprement dit. Mais ce qu'on oublie beaucoup, c'est ce qu'a donné cette crise, c'est-à-dire une crise économique, dont on n'est pas sorti, et qui est en train de devenir crise politique. Il n'y a qu'à voir les résultats, je dirais, surprenants de ces dernières années dans beaucoup de pays, le Brexit, l'élection de Donald Trump, la montée des extrêmes droites, tout un ensemble de résultats tout à fait étonnants.
Thierry Philipponat, qu'est-ce qui a provoqué la crise de 2008 ?
Ce qui a provoqué la crise de 2008, c'était, j'ai envie de dire, l'emballement d'un système qui avait oublié que la finance, et ça rejoint le point qu'on évoquait il y a deux minutes, est faite pour servir l'économie et non pas se servir elle-même. Les êtres humains étant ce qu'ils sont, quand ils oublient l'objet de ce qu'ils sont censés faire, eh bien, il y a un moment où ça dégénère. Alors pour ça, il y a plein de facteurs techniques dans lesquels on peut rentrer et on y rentrera. Mais à la base, c'est ce côté, j'ai oublié que la finance n'est pas un objectif, c'est un moyen.
Vous partagez ce point de vue, Pierre-Yves Colomba ?
Tout à fait.
C'est ça qui a provoqué la crise de 2008.
Tout à fait. Mais ce que je voudrais dire, on présente en général le problème comme un problème moral. Si Wall Street était plus rigoureux, s'ils étaient moins ceci, plus cela, enfin, etc., on n'aurait pas ces crises, on n'aurait pas ces errements. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, et on retrouve notre problème de fond, à quoi sert la finance ? Et est-ce qu'elle fait ce pour quoi elle est censée exister ? C'est-à-dire financer l'économie. Quand vous voyez les chiffres, on est absolument époustouflé. Il y a les mouvements financiers, qu'il s'agisse de la bourse, qu'il s'agisse de l'activité bancaire, enfin, etc. Allez, si je dis qu'il n'y a que 20% de l'activité financière qui sert l'activité économique, je pense que je suis encore gentil.
Et c'était le cas en 2008 ?
Bien sûr. En 2008, on est arrivé à un des sommets. Et puis, il y a eu quelques mouvements de rectification qui ont été faits, parce que quand même, ça devenait extrêmement dangereux. Il y a eu des G20, il y a eu des dispositions qui ont été prises, etc. Dispositions qui, un, ont créé d'autres difficultés, et puis qui ensuite, progressivement, disparaissent. Et ce qu'on constate depuis 3-4 ans, et encore avec l'arrivée de Donald Trump, on le voit bien, c'est que le peu de régulation qui a été mis en place est en train de s'étioler et n'a plus d'importance.
L'un des autres signes que cette crise n'est pas terminée, c'est ce procès qui s'est ouvert cette semaine à Munich en Allemagne. Les accusés sont deux anciens dirigeants de la banque Hypo Real Estate, HRE, c'est le sigle de cette banque. Et pour en parler, nous retrouvons notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour Jean-Pierre.
Pascal, qui sont précisément les deux personnages qui sont jugés à Munich ?
L'ancien patron de la banque HRE ou Hypo Real Estate, Georg Funke, et l'ancien directeur financier de l'établissement sont dans le collimateur de la justice. Ils se voient reprocher d'avoir embelli les comptes de la banque pour masquer la gravité de sa situation. Le second aurait même manipulé les cours boursiers. Ils encourent respectivement 3 et 5 ans de prison. Cette banque, qui avait été créée en 2003, était peu connue du grand public, même si elle était devenue en 2008 avec 400 milliards d'actifs, le troisième établissement du pays. Un poids lourd donc, dont les difficultés menaçaient d'ébranler le secteur bancaire allemand dans son ensemble. D'où un engagement important de l'État qui a renfloué HRE en 2010 avec 10 milliards d'euros d'argent frais et 124 milliards en garantie pour éviter la faillite de l'établissement. Nationalisé, la banque est en cours de liquidation. Georg Funke, l'ancien patron, baptisé le Bankster dans la presse en raison de ses exigences financières après son départ, est devenu en Allemagne le symbole du banquier sans scrupules. Au début de son procès, il a au contraire accusé la Deutsche Bank et l'État d'avoir provoqué la chute de Hypo Real Estate.
Alors Pascal, comment le secteur bancaire dans sa globalité a-t-il fait face à la crise bancaire de ces années 2008-2009 ?
Alors l'Allemagne a été fortement secouée par la crise financière. Cela a été le cas pour un des trois piliers du secteur bancaire, les banques privées. Pour échapper au pire, des restructurations importantes ont été nécessaires. Dresdner Bank et Postbank ont été reprises par leurs concurrentes. Commerzbank et Deutsche Bank. La Commerzbank, elle, en difficulté, a été sauvée par une participation de l'État dans son capital. Et aujourd'hui, c'est le numéro un de ce secteur, la Deutsche Bank, qui continue à poser des questions. Certes, l'établissement est sorti de la crise financière sans aide publique, mais accumule aujourd'hui les difficultés, doit se restructurer. Et de nombreuses pratiques douteuses du passé impliquent d'innombrables procès avec une ardoise parfois très salée, des milliards, comme aux États-Unis. Et si le deuxième pilier du secteur bancaire allemand, les banques coopératives, bien résisté, plusieurs banques publiques régionales, elles ont été frappées durement par les conséquences de placements internationaux qui se sont révélés négatifs pour leur compte.
Dans votre rapport, Pierre Colomba, vous consacrez un long passage à cette banque allemande qu'évoquait à l'instant Pascal Thibault, la Deutsche Bank, qui connaît actuellement de graves difficultés. C'est une autre preuve de cette permanence de la crise ?
C'est une autre preuve de permanence de la crise, que on a des établissements dits systémiques. Systémique, c'est-à-dire que ce sont des établissements d'une telle grosseur, avec un bilan d'une telle grosseur, avec surtout des connexions avec les autres grandes banques, il y en a une trentaine par le monde, que s'il y en a une qui tombe, les autres risquent de tomber avec. Donc ce sont ces banques-là qui risquent d'emporter le système. Mais si on revient à l'origine de comment ça s'est propagé, comment les troubles financiers américains sont arrivés en Europe. D'abord, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y avait déjà eu des problèmes avec ces banques, avec la spéculation irlandaise, la spéculation aussi en Espagne. Et ensuite, les banques allemandes ont été frappées de plein fouet parce qu'elles étaient gavées de créances à base de subprimes, enfin, etc. Et pourquoi ? Là aussi, si on va un peu creuser plus loin, pourquoi ? C'est parce qu'il y avait des excédents. Et ces excédents, c'était le recyclage du système européen où on voit s'accumuler des excédents dans certains pays. Il faut bien en faire quelque chose. Et ce type de placement était un moyen d'utiliser ces excédents. Donc, évidemment, il n'est pas question d'excuser ces pratiques frauduleuses, enfin, etc. Mais à ne parler que de ça, on oublie de poser ce qui me paraît être le vrai problème. Comment fonctionne ce système ? À quoi il sert ? Et pourquoi on tolère qu'un système qui est aussi dangereux, on a vu les résultats, un système aussi dangereux puisse continuer à faire la pluie et le beau temps. Parce qu'en réalité, malgré les cris d'orfraie que poussent les banquiers, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait en matière de régulation.
Vous êtes d'accord avec ce que dit Pierre-Yves Colomba ? Thierry Philippona, en synthèse, il nous explique que le problème, ce ne sont pas tant les pratiques frauduleuses que l'utilisation qui est faite par les banquiers, les financiers, de ces pratiques frauduleuses, de ces produits frauduleux pour investir des excédents financiers importants.
Je suis largement d'accord avec le sénateur Colomba sur l'analyse des causes. Je mettrai une grosse nuance que je mettrai à la fin sur la question de la régulation. En quoi suis-je d'accord ? Et je pense que ça mérite vraiment d'être creusé parce que c'est juste fondamental. Quand monsieur Colomba nous dit « c'est pas une question de morale », je suis 100% d'accord. On a des débats sans fin sur la finance est-elle éthique, n'est-elle pas éthique ? Pourquoi est-ce que ce sont des débats sans fin ? Je vais vous donner un exemple. La spéculation. Vous avez un corpus qui vous dit la spéculation, c'est profondément anti-éthique, non éthique, parce que spéculer, faire de l'argent avec de l'argent, c'est pas éthique. Et vous avez un corpus tout aussi important qui vous explique que la spéculation, ça permet de trier entre les bons et les mauvais. Certains vont jusqu'à parler de la main de Dieu, donc c'est profondément éthique. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Ce qui me semble beaucoup plus intéressant, c'est un, de constater que oui, la spéculation a toujours existé, existera toujours. C'est un vrai sujet. Que le sujet, c'est de savoir si, dans un système financier qui a de la spéculation, et de mon point de vue, il y en aura toujours, on a une destination globale du capital. J'aime bien ce mot destination, son orientation, où va-t-il ? Qui va vers l'économie productive et la société, pour que les êtres humains que nous sommes tous fassent quelque chose avec. Ça, c'est la vraie question. Après ça, les questions d'ordre éthique ou moral, ils sont d'un autre ordre. Donc ça, c'est la première chose à dire. Et je pense que quand on passe trop de temps à se dire faut-il moraliser la finance, in fine on loupe, on manque la question essentielle. Je ne suis pas en train de dire que l'éthique au niveau personnel n'est pas importante, elle est fondamentale. Mais c'est une question personnelle d'intégrité, de non-tricherie, de transparence et d'honnêteté tout simplement. Donc fondamentale au niveau personnel.
Toutes ces règles-là, elles ont été violées par les gens de Wall Street qui ont mis au point les subprimes.
Alors,
oui ou non ?
Elles ont été violées parfois, mais c'est pas le problème majeur. C'est-à-dire que qu'il y ait eu des tricheurs dans le système, oui, évidemment. La réalité, c'est que dans tous les domaines économiques, il peut y avoir des tricheurs. Oui, il y a eu des tricheurs, et un certain nombre d'entre eux sont fait attraper. Je dis bien un certain nombre d'entre eux. Par contre, la question essentielle, c'est d'avoir construit un système financier qui parfois, et c'est important de le dire, fait son travail d'apporter du capital à l'économie productive, autrement dit de transformer du capital financier en capital productif, et parfois, et souvent, et M. Colomba le disait, ne le fait pas. Par contre, là où je mettrais une grosse nuance par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est sur la question de la régulation. Je pense profondément que la régulation a énormément changé les choses et a fait un très gros travail, mais il va falloir analyser un tout petit peu, même si c'est brièvement, en quoi elle a fait un travail et quelles sont ses limites. Elle a fait un gros travail pour fixer le comment du système financier. Qu'est-ce que j'appelle le comment ? Les règles du jeu, la protection des consommateurs, le capital réglementaire des banques ou des compagnies d'assurance, la transparence des marchés financiers.
C'est valable pour les États-Unis ?
C'est valable.
Comme pour l'Europe ?
Le sujet est juste gigantesque, donc il faudrait 5 heures d'émission pour le traiter. Mais c'est valable, grosso modo, pour les États-Unis et pour l'Europe. Mais j'ai bien dit, on a fixé le comment. Par contre, on n'a pas touché du tout le quoi. Au fait, ça sert à quoi tout ça ? Et ça, la régulation ne l'a pas fait, mais elle n'a juste pas les moyens de le faire. C'est pas dans le rôle de la réglementation de le faire. Donc, quand on dit aujourd'hui il pourrait y avoir à nouveau une crise financière, j'ai presque envie de dire on va pas parler au conditionnel et je suis ni un gourou ni un oiseau de mauvais augure. Il y aura de nouvelles crises financières. Il y en a toujours eu. Il y a aucune raison qu'elle s'arrête. La question c'est de savoir c'est quand la crise financière arrive. La prochaine arrivera un jour. Je ne sais ni quand ni comment, mais elle arrivera un jour. Ça c'est écrit. Est-ce que tout le système s'effondre à nouveau ? C'est ça le sujet. Qui est des crises ? C'est dans la nature de la vie, il suffit de lire l'histoire. Mais est-ce que le système s'effondre ? Ça, c'est vraiment la question essentielle. Et la deuxième question essentielle, c'est en dehors des crises, parce qu'il faut aussi s'intéresser au temps normal, même si tout s'effondre pas, est-ce que la fonction de transformation d'un capital monétaire en capital financier et après ça en capital productif est assurée par le système ? Parce que même en dehors d'une crise et d'un effondrement du système, la question essentielle, c'est de savoir si l'économie et la société sont nourries par le système financier.
Pierre-Yves Colomba, vous, dans votre rapport, vous dites que les réformes qui ont été entreprises ces derniers temps ont été des réformes en trompe-l'œil.
Oui, je suis pas, enfin, je pense pas qu'on soit tellement en désaccord sur ce point-là. Je voudrais prenons l'exemple qui a été que vous avez abordé, enfin, la loi bancaire, la loi Moscovici.
Mm-hmm. Oui, puisqu'on on entendait Moscovici dans l'introduction de l'émission. Oui.
Mais c'est une escroquerie. Bon, moi, j'étais dans l'hémicycle, je me suis battu pour faire passer un certain nombre d'amendements. Bon, il dit bien, il répond pas au problème. Quelle est la question ? Est-ce que, si vous mettez en place de la régulation, vous allez privilégier la recherche de la sécurisation du dispositif ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit un peu moins dangereux ? Qu'on fait la question d'Elisabeth II d'Angleterre au professeur de la London School, Economic School. Comment a-t-on pu laisser installer un système aussi dangereux ? Donc, est-ce qu'on veut mettre en place des dispositions qui rendront le système moins dangereux ou, en même temps, conserver la possibilité de faire du business, c'est-à-dire ne pas gêner le fonctionnement, les fonctionnements des banques. Et la réponse de Moscovici est tout à fait intéressante. Ah oui, mais vous comprenez, si on les bride un peu trop, ça va avoir une incidence sur le chômage. Mais c'est pas la question. D'autant que, quand on regarde maintenant les dégraissages, entre guillemets, que les établissements bancaires vont réaliser, on se dit que finalement, on a perdu sur les deux tableaux.
Alors, on continuera cette intéressante conversation dans quelques minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré à l'état de la sphère financière mondiale. Deux invités pour en débattre, le sénateur Pierre-Yves Collombat, auteur d'un rapport d'information intitulé « Une crise en quête de fin » et Thierry Philippona, directeur de l'Institut Friedland à Paris, auteur du livre « Le capital de l'abondance à l'utilité » publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Au cours de la première partie, nous avons évoqué assez longuement la crise de 2008 qui avait ébranlé la finance et l'économie mondiale. Nous avons un peu vu ce qui s'était passé en Europe et en particulier en Allemagne. Et je crois qu'il faut maintenant donner quelques indications globales sur l'importance de la sphère financière aujourd'hui. Thierry Philippona, c'est quoi la finance mondiale aujourd'hui? Il y a combien d'euros, de dollars qui planent, qui flottent au-dessus de nos têtes comme les serpents de jadis?
Alors je ne sais pas si ça plane au-dessus de nos têtes. Alors
c'est dans les poches de certains.
C'est une question qui est complexe à laquelle il n'y a pas une réponse simple. Plusieurs exemples. Le total de la taille du système bancaire européen, je raisonne Union européenne dans sa configuration actuelle à 28 pays, c'est 45 000 milliards d'euros. D'accord. 45 000 milliards d'euros, c'est plus de 3 fois le PIB de l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'est une des mesures possibles. Ce qui est intéressant.
Si on inclut les États-Unis.
L'une des caractéristiques des États-Unis, c'est que la taille de leur système bancaire est beaucoup moins importante par rapport à leur PIB. Là où en Europe, on est à plus de 300% du PIB, plus de 3 fois, aux États-Unis, on est à 80% du PIB. Donc en relatif...
Pour le système bancaire. Est-ce que la sphère financière se réduit au système bancaire?
Non, la sphère financière ne se réduit bien sûr pas au système bancaire. Et vous avez tout à fait raison. Et c'est là qu'on est obligé, pour répondre à votre question, de prendre des statistiques un peu éparses. Vous avez donc... Donc ça, c'est le monde du prêt bancaire, fondamentalement, pour faire simple. Vous avez aussi le monde de l'investissement, autrement dit, tous les fonds d'investissement qui font leur métier d'allouer du capital, normalement. C'est environ 75 000 milliards de dollars au niveau mondial. Voilà. Et puis, vous avez quelque chose qui est juste considérable, qui est la sphère des produits dérivés. Un produit dérivé, c'est le droit d'acheter ou le droit de vendre un autre produit. Donc, c'est un engagement ou un droit à acheter un produit, c'est pas le produit lui-même. Et ça, les encours de ces produits, dans le jargon, on appelle ça des encours sous-jacents, c'est environ 700 000 milliards de dollars. Donc, on voit que, je vous disais, la gestion d'actifs, c'est 75 000. Et là, c'est 700 000. Donc, c'est, pour faire simple, 10 fois ou 9 fois plus élevé.
Ce sont des chiffres vertigineux, Pierre-Yves Collombat.
Tout à fait vertigineux. Pour revenir à notre conversation de tout à l'heure, et sur l'idée de crise, on parle de crise systémique. Ce qui est dangereux, c'est l'interconnexion. Tout ça est interconnecté. Et en particulier, ces fameux, les fameux CDS qui sont, en fait.
Alors, dites-nous ce que c'est, les fameux CDS. Bon.
En gros, au départ, ce sont des sortes d'assurances. On se prémunit contre des changements de taux de change, enfin, etc. Bien, c'est une espèce de
c'est un produit dérivé. En jargon financier, les crédits default swap, c'est ça, Thierry Philippona?
Oui, le crédit default swap, c'est un produit dérivé, un produit financier dérivé qui permet de se prémunir contre la défaillance d'un émetteur d'obligations. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Après ça, il y a tout un débat sur est-ce que c'est utile. De mon point de vue, c'est typiquement un produit qui n'est pas utile. Et je le dis dans le livre « Le capital de l'abondance à l'utilité ». Je l'utilise même comme l'un des exemples d'une invention financière qui est techniquement astucieuse, mais qui ne sert pas à l'économie réelle. Parce que quand vous y réfléchissez, à quoi sert de couvrir le risque de défaillance d'un émetteur quand vous êtes banquier? Si vous pensez qu'un émetteur va faire faillite, vous avez le droit de le penser, bah ne lui prêtez pas de l'argent. Mais derrière le CDS, il y a le côté, je vais pouvoir prêter à quelqu'un...
Tout en sachant qu'il va se casser la figure.
En me disant, je peux lui prêter alors que je pense qu'il va se casser la figure. Moi, je propose quelque chose qui est d'une simplicité incroyable. Si vous pensez que quelqu'un va se casser la figure, bah ne lui prêtez pas. Et donc là, c'est typiquement pour moi l'illustration d'un produit qui ne correspond pas à un besoin.
Et pourtant, vous, Thierry Philippona, vous racontez dans votre livre que dans les années 2000, quand vous étiez banquier, vous avez participé à la naissance de ces générations de produits dérivés.
J'étais dans ce métier qui, au moment où ils ont commencé à, typiquement, les crédits default swap ont commencé à être développés et puis systématisés, j'ai envie de dire. Et c'est typiquement un exemple qui permet de comprendre comment parfois, j'ai bien dit parfois, pas tout le temps, c'est important de pouvoir mettre des nuances, mais parfois le système financier invente des techniques qui ne servent à rien, puisque en fait, il y a une technologie derrière, et je me souviens très bien qu'à l'époque, on allait voir les banquiers, les investisseurs en disant « c'est formidable, on a inventé un produit qui va vous permettre de prêter à une entreprise à qui vous n'auriez pas prêté autrement ». Et les banquiers nous regardaient en disant « Bon, très bien, il coûte combien votre produit ?»« Il coûte X. »« Ah ben, X, c'est justement la marge que je prends sur cet émetteur. » »« Donc, quel est l'intérêt de prêter à X si vous me demandez X pour me couvrir ?» Réponse, pas d'intérêt. Mais bon, voilà, le système s'est quand même développé à partir de cette base-là. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre sur les marchés financiers. C'est-à-dire que l'offre d'un produit va générer sa propre demande. Et pourquoi l'offre va générer sa propre demande? Et j'essaye dans ce livre de l'expliquer précisément, sans aucun a priori de c'est bien, c'est mal, mais de comprendre comment ça marche. Puisqu'à partir du moment où vous êtes sur un marché, le prix de cette chose, je fais exprès d'utiliser ce mot très général qui est sur le marché, va varier. Et quand quelque chose varie, bah, il y a quelqu'un qui se dit « je vais pouvoir bénéficier de cette variation ». Et c'est naturel, j'ai pas de jugement moral sur le fait. Et donc, de facto, dès que vous créez un produit financier, il trouve sa propre demande dans le fait que quelqu'un va l'analyser, se dit « puisque ça varie,
je vais pouvoir en
obtenir un bénéfice ».
Sénateur
Keynes l'analyse extrêmement bien dans ses écrits.
Pour prendre un exemple, ce qui est pernicieux avec cet outil-là, c'est qu'on peut spéculer à la baisse. Donc, on peut déstabiliser sciemment des pays, des créanciers, des entreprises, des entreprises, enfin, etc. Par exemple, en l'espèce, comment est parti le crash des subprimes? Quelques bons observateurs avaient vu qu'il y avait de plus en plus de défaillances des détenteurs donc de subprimes. Ils se sont dit, ça ne va pas continuer comme ça, un de ces quatre matins, ça va péter le système. Bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié un titre qui leur permettait, ils demandaient donc aux banquiers de leur acheter à un certain prix, qui était un peu en dessous du marché actuel, un certain nombre, un volume de crédits de subprime, qu'ils ne possédaient pas. Ce qui s'est passé, c'est que progressivement, la baisse est arrivée, puis l'effondrement, et le moment venu, eh bien, ils ont pu racheter au cours du jour, c'est-à-dire très bas, des créances que le banquier a dû leur payer très très cher. Et donc le différentiel, eh bien, ils l'ont mis dans la poche.
Alors, on va rester aux États-Unis où le candidat Donald Trump avait promis de déréglementer l'économie américaine, en particulier le système financier. Et depuis, devenu président, il s'est entouré d'anciens de Wall Street, souvent passés par la banque Goldman Sachs, comme son principal conseiller économique Gary Cohn ou son secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Trump a beaucoup critiqué la loi Dodd-Frank, l'un des piliers de la régulation aux États-Unis et de la surveillance des risques bancaires. Et pour en parler, pour voir ce que prépare Donald Trump, j'appelle un des correspondants de RFI à Washington, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Jean-Pierre.
Pierre-Yves, comment Donald Trump peut-il revenir sur cette loi Dodd-Frank?
Bien, la manière la plus logique de revenir sur cette loi serait de faire passer une autre loi au Congrès pour amender Dodd-Frank. Mais dans la pratique, c'est impossible, au moins pendant un an. D'abord parce que le Congrès est totalement absorbé par deux autres énormes sujets, la réforme de la santé et la réforme de la fiscalité. Et pour changer Dodd-Frank, il faudrait que les républicains soient d'accord entre eux, ce qui n'est pas le cas. Certains républicains voudraient faire éclater les plus grandes banques en plus petites entités, d'autres ne veulent pas aller jusque-là. Et il faudrait que les républicains rallient à un projet, quelques démocrates, et ces derniers qui sont minoritaires, font pour l'instant de l'obstruction. Donc, pas de réforme de Dodd-Frank dans l'immédiat.
Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qu'on doit comprendre, Pierre-Yves Dugas, que la déréglementation que veut Trump, eh bien, elle ne va pas se faire?
Mais si, la déréglementation va pouvoir se faire, mais par une autre voie, la voie réglementaire. Dodd-Frank laisse précisément aux régulateurs, comme la SEC, qui est l'organe de réglementation des marchés boursiers, mais aussi au Trésor, à la Fed, beaucoup de latitude pour interpréter cette loi. La définition des normes est complexe et elle peut évoluer en faveur des souhaits des banques. Par exemple, sur la question de l'interdiction pour les banques de dépôt d'user de leurs fonds propres pour prendre des positions sur les marchés. Donald Trump a déjà donné ordre aux régulateurs d'être souples, arrangeants et d'étudier comment alléger la charge réglementaire qui, à ses yeux, freine l'innovation financière et limite l'offre de crédit, donc la croissance.
Alors, est-ce que Donald Trump a d'autres moyens pour déréglementer ?
Donald Trump peut radicalement, en fait, transformer la réglementation financière américaine, mais par le biais des nominations. D'abord, à la Réserve fédérale, qui d'ici un an sera profondément changée. Il y a déjà 3 postes de gouverneur vacants à la Banque centrale des États-Unis, dont celui qui a été désigné par la loi Dodd-Frank, et spécifiquement pour la supervision des banques. En outre, le mandat du Vice Chairman, qui est occupé aujourd'hui par Stanley Fischer, expire en juin 2018, et le mandat de la patronne de la Fed, Janet Yellen, expire en janvier 2018. Janet Yellen pourrait, c'est vrai, rester à la Fed, mais comme gouverneur ordinaire, ce qui est peu probable. Donc rien qu'en plaçant des hommes ou des femmes proches de ses vues, et confirmables par le Sénat, Donald Trump peut changer le climat de la politique monétaire et réglementaire aux États-Unis.
C'était Pierre-Yves Dugas, Washington, et c'était Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la finance mondiale avec 2 invités. Thierry Philippona, membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers, directeur de l'Institut Friedland à Paris, auteur du livre « Le capital de l'abondance à l'utilité » aux éditions Rue de l'Échiquier, et le sénateur Pierre-Yves Colomba, auteur d'un rapport d'information intitulé « Une crise en quête de fin ». Cette politique de Donald Trump, elle vous inquiète, Thierry Philippona ?
Elle est forcément inquiétante parce que elle participe d'un a priori totalement idéologique qui consiste à dire dans la vie il faut pas de règles et tout marche mieux quand il y a pas de règles.
Est-ce que ça va aboutir à une explosion, à encore plus de capitaux ? Est-ce que ça va aboutir à encore plus de capitaux, encore plus de produits mis sur le marché ?
S'il devait arriver à ses fins, je le mets au conditionnel parce que les processus législatifs, heureusement, sont plus complexes que ça. Mais s'il devait arriver à ses fins, on reviendrait vers un système qui oublierait, et on a beaucoup parlé du mauvais côté de la finance quand elle dégénère aujourd'hui, mais il faut aussi parler de son côté positif, mais qui reviendrait à encourager ses côtés négatifs. Et alors, il est quand même très très important de dire aussi que la finance est juste indispensable. Que le capital, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de ce qu'on en fait, c'est un outil, et que quand il est utilisé à bon escient, c'est non seulement un facteur de production économique, mais une force de progrès sociétal. Monsieur Trump semble totalement ignorer ça, et c'est bien ça le problème. Et le capital, aujourd'hui, quand on voit comment il est utilisé largement en Europe, beaucoup plus qu'aux États-Unis, il y a toute une tendance de l'investissement en actions et en obligations notamment, qui est, j'ai envie de dire, la vraie finance, celle qui fait comme métier d'allouer le capital aux entreprises, qui non seulement va regarder les conditions économiques qui permettent à ces entreprises de prospérer, ou le cas échéant de ne pas prospérer, auquel cas elles n'auront pas le capital, mais également d'intégrer ce qu'on appelle des critères non financiers, environnementaux, sociaux, sociétaux, de bonne gouvernance, qui sont des critères absolument essentiels aujourd'hui pour investir. Ce type de pratique, en France, ça représente plus de 750 milliards d'euros. Et derrière ce chiffre qui est absolument considérable, bien sûr, il y a des pratiques qui ont un degré d'exigence variable, mais que nous dit ce chiffre ? Ça veut dire qu'il y a 750 milliards d'euros, c'est environ un quart des actifs gérés à Paris, qui est une grande place financière, c'est la deuxième place financière d'Europe. Ça veut dire qu'il y a un quart des actifs qui sont gérés en prenant en compte le fait que les questions sociales, sociétales, environnementales et de gouvernance sont importantes. Et ça, c'est un phénomène absolument majeur qui nous oblige à repenser nos schémas de pensée.
Mais 750 milliards, c'est une goutte d'eau par rapport aux sommes que vous évoquiez tout à l'heure. Vous citiez comme volume des actifs financiers plus de 700 000 milliards de dollars.
Alors, 700 000 milliards de dollars, attention, c'est des engagements à vendre et à acheter d'autres produits financiers. Et je suis le premier à être extrêmement critique de ces produits. Vous avez raison, d'accord ? Parce que, surtout quand on regarde qu'il y a environ 7 ou peut-être 10%, si on est généreux, de ces produits qui servent à couvrir des risques réels des entreprises. Et là, ils ont une vraie utilité. Il ne faut pas non plus les vouer aux gémonies. Bon, mais 750 milliards sur la place de Paris, j'ai bien dit Paris, qui est un quart des actifs gérés, c'est pas une goutte d'eau. C'est tout à fait considérable. Et ça participe d'une prise de conscience d'une large partie, et j'insiste sur ce mot large partie, du monde de l'investissement, qu'il est indispensable que la finance participe à l'économie et soit constructive. Et pas simplement parce que nous sommes tous des citoyens, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une conscience citoyenne et qui se disent quand même, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il est évident que le terme même d'investir revient à prendre en compte le moyen long terme. Voilà, investir, si on n'a pas le long terme en tête, ça veut rien dire. Et que l'intégration des questions environnementales, sociétales ou de gouvernance, c'est l'appréhension du long terme. Et donc ça, c'est un phénomène absolument essentiel aujourd'hui.
Pierre-Yves Colomba, c'est un discours qui vous rassure, auquel vous croyez?
Ah oui, moi je partage cette vision des choses. Si vous me permettez, moi ce que j'ai essayé de faire dans mon rapport, c'est aussi de montrer qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse parce que cette crise qui est devenue économique, qui est devenue sociale, est devenue aussi une question politique. Et l'exemple Trump est tout à fait parfait. On est dans une situation où vraiment tout est possible. Enfin, c'est extraordinaire la position de Donald Trump. Il veut les avantages du système tel qu'il est, libéral, exacerbé, financiarisé, enfin, etc., sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire la délocalisation des emplois. C'est sur ce thème-là qu'il a été élu dans la Rust Belt. Bien. Et qui a fait qu'il est président des États-Unis. Mais si, justement, il n'y a plus ces excédents, s'il n'y a plus les capitaux qui s'accumulaient dans les coffres des Allemands, des Chinois, etc., pour venir se réinvestir à Wall Street et faire tourner leur acheter des bons du Trésor, etc., qu'est-ce qui va se passer? C'est un tissu de contradictions, là, pour moi, la politique de Donald Trump. Un tissu de contradictions. Il veut le beurre, l'argent du beurre, bien sûr aussi le sourire de la crémière, nous, mais c'est pas possible. Je veux dire qu'il y a bien un moment où il faudra qu'il choisisse, soit parce que ses petits amis lui diront « bah écoute, on peut pas tout faire », soit parce que ça va se bloquer quelque part. On minimise, je crois, trop encore, je veux dire, que les conséquences politiques de cette situation, qui peuvent aboutir justement à des prises de décision qui accentuent encore la dangerosité du système.
Alors vous parliez à l'instant de la Chine, on n'en a pas encore parlé dans cette émission. Le moment est venu parce que c'est un pays qui occupe une place croissante dans l'économie mondiale et la finance chinoise occupe aussi une place croissante. J'en ai parlé il y a quelques jours avec un investisseur français qui vit depuis 5 ans à Hong Kong, David Bavrez, c'est son nom, vient de publier aux éditions François Bourin un livre intitulé Paris-Pékin Express. On l'écoute.
Les finances chinoises ont maintenant un impact colossal sur l'ensemble des finances mondiales. Naturellement, la première question qui se pose, c'est celle de l'endettement de la Chine.
Pourquoi ?
Bien, tout simplement parce que l'endettement de la Chine est celui qui a le plus progressé depuis la crise de 2008. Les Chinois ont rajouté à peu près 100 points de produit national brut par opposition à l'Occident qui n'en a rajouté à peu près que la moitié 50. Comme nous, occidentaux, on partait d'une base déjà plus élevée, le résultat de la course est le même pour tout le monde. Que vous soyez aux États-Unis, en Europe, au Japon ou en Chine, vous finissez entre 250 à 300% de dette exprimée en produit national brut. Donc on a tous le même problème à résoudre et chacun va apporter des solutions différentes.
Alors, comment est-ce que l'État chinois gère ça ?
Alors, premièrement, en Chine, face à toute cette dette, vous avez beaucoup de liquidités, beaucoup de dépôts bancaires qui se montent à un chiffre absolument astronomique de 20 000 milliards de dollars. C'est 200% du produit national brut. C'est 4 fois plus qu'aux États-Unis. Ce sont des avoirs privés. Et ça, c'est capital dans le cas d'une crise de la dette parce que si vous vous souvenez de Lehman Brothers en 2008, une crise de la dette, ça pète toujours à cause de la liquidité. Donc, la crise de l'endettement chinois ne va pas sauter du jour au lendemain parce qu'on peut l'étaler dans le temps. Ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est qu'alors que nous, par exemple, Français, notre dette est détenue à plus de 50% par des étrangers, Dans le cas de la Chine, cet endettement très important est détenu à plus de 95% par les banques chinoises sur lesquelles ils sont déposés parce qu'il y a un contrôle d'échange. Donc vous ne pouvez pas sortir l'argent de Chine. Tout le jeu de Xi Jinping, c'est d'allouer ses richesses, d'allouer cette épargne en disant il faut à la fois que je finance la nouvelle économie, donc l'Internet, l'e-commerce, la fintech, demain la voiture connectée, l'Internet des objets, et que je finance les restructurations des industries d'hier qui vont détruire ces 12 millions d'emplois.
On dit souvent que la finance mondiale est très décorrélée de l'industrie et de la production. Est-ce que c'est le cas ? Apparemment non, pour la finance chinoise.
Alors, on dit ça en général des États-Unis où il y a toute une industrie financière, des produits par exemple structurés, des produits dérivés qui ont été créés par l'imagination des financiers sans rapport avec l'économie réelle. Cet aspect de la finance est beaucoup moins développé.
Et à l'heure actuelle, vous diriez que ce système financier est faible ?
Absolument. Il est à la fois très faible et très fort, au sens où il est très faible parce que quand on revient aux prêts qui ont été faits depuis 2008, ils ont entre autres servi à financer, on estime à peu près 50 millions d'appartements qui aujourd'hui sont vides. Donc en termes financiers, le FMI dit c'est à peu près 1,5 trillion de dollars. C'est-à-dire que si vous dites que ces prêts vont perdre 50% de leur valeur, le coût pour la Chine serait de 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars, pour mettre les choses en perspective, c'était le coût de la crise américaine en 2008. Donc si vous regardez la Chine de manière statique, la perte potentielle de la Chine est équivalente à celle des Américains en 2008 et vous pouvez mettre l'ensemble de la finance mondiale par terre.
C'était David Bavrez qui vient de publier aux éditions François Bourin un livre intitulé Paris-Pékin Express, Thierry Philippona. C'est inquiétant cette situation chinoise ?
Je partage largement l'analyse faite par Monsieur Bavrez. La situation chinoise est une situation caractérisée par les ingrédients qu'il a très bien décrits. Oui. Hein, beaucoup de liquidités, beaucoup de dettes.
Est-ce que ça peut mettre par terre le système financier mondial comme Lehman Brothers ?
Excellente question. De mon point de vue, non. Pour la raison suivante, c'est que pour mettre le système par terre, c'est ce que disait Monsieur Colomba tout à l'heure, il l'expliquait fort bien, c'est quand un tombe, les autres tombent parce qu'ils sont connectés. Et si on n'a pas de connexion, si je tombe, vous tombez pas. Le système financier chinois est très peu connecté au reste du système financier mondial. Parce que, comme Monsieur Bavrez l'a très bien dit, il y a très peu de produits dérivés ou de choses comme ça avec les autres grandes banques mondiales qui sont un vecteur essentiel de connexion, d'interconnexion et donc de fragilité du système occidental, pour faire simple. D'accord? Les Chinois, ils sont pas du tout présents sur ce marché ou tellement marginalement que voilà. Et la deuxième chose, c'est que c'est un système très interne. Donc, s'il y a une crise majeure, eh bien, l'État chinois sera derrière et puis renflouera et donc, il créera du renminbi et puis renflouera son système en cas d'extrême nécessité. Mais en tout cas, le système de propagation, interconnexion, contagion, effet domino, est de mon point de vue extrêmement peu probable.
Sénateur Colomba, vous croyez que la Chine étant exclue, nous allons vers une nouvelle crise financière mondiale à court terme ? C'est un peu ce qui transparaît de votre rapport.
Oui, je me suis quand même gardé de jouer les pythonistes, enfin, vous savez ce qu'on disait
à Rome. Les prévisionnistes.
Voilà, ouais. Non, on disait qu'à Rome, quand des devins se rencontraient, ils éclataient tous de rire. Mais mon impression, si vous voulez, c'est que toutes les conditions techniques sont réunies pour qu'il y ait de nouveau un crash financier. Que toutes les conditions, je le dis explicitement, que toutes les conditions soient remplies ne signifie pas que ce crash aura lieu. Parce que ça serait tellement catastrophique que les pompiers interviendront, quitte à noyer tout le monde sous la liquidité, enfin, etc. Mais par contre, ce que j'ai dit, c'est que ce qui risque de se passer, et je reviens à mon idée que c'est la déstabilisation politique risque de créer des phénomènes immaîtrisables qui auront une répercussion sur le système financier lui-même et qu'alors là, plus personne ne contrôlera rien du tout. Et plus on tardera à prendre conscience de la dangerosité de la situation dans laquelle on est...
De la situation financière et économique.
Globale. La situation globale. Moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que on ne peut pas, dans ces matières-là, raisonner uniquement en termes techniques
du système financier. Ce système financier, il n'est pas là par hasard. Il fait partie d'une grande transformation qui s'est passée à partir de la remise en cause donc des accords de Bretton Woods. Et on l'a bien vu en 2008-2009, les interventions finalement des gouvernements, des banques centrales, etc., ont fait que on n'a pas eu les écueils qu'on a eu en 1929. Bon, donc il faut raisonner globalement. Et globalement, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où vous déstabilisez la gouvernance mondiale, eh bien, vous pouvez produire des effets tout à fait inouïs, incroyables. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Donald Trump, et pour moi, tout à fait significatif.
Thierry Philipona, vous êtes un financier, un technicien, qui est allé vers la politique plutôt, vers des considérations d'ordre général, à l'inverse de Pierre-Yves Colomba, qui est un politique qui s'intéressait à la technique. Est-ce que vous vous rencontrez avec lui? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ça sera le mot de la fin.
Il y a une intersection. Moi, je suis un économiste qui a fait de la finance et qui s'intéresse à l'économie et à la société. L'intersection entre M. Colomba et moi-même, elle est très importante. Elle consiste à dire, tiens, si on avait une finance qui sert à quelque chose. Voilà, ça paraît simple, mais c'est quand même fondamental. Là où il y a des différences, mais c'est la vie, vive le débat, et personnellement j'aime le débat, c'est que j'ai la conviction qu'on a fait un très gros progrès dans la capacité à gérer une crise financière par rapport à la situation qu'on avait il y a 10 ans. Après ça, il y a 10 ans, on était dans un état où il y avait... Enfin, c'était juste catastrophique ce qu'on avait. Aujourd'hui, nous sommes quand même beaucoup mieux équipés.
Merci, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Pierre-Yves Colomba, Thierry Philipona, d'y avoir participé. Thierry Philipona, je rappelle le titre de votre livre, Le capital de l'abondance, l'utilité, aux éditions Rue de l'Échiquier. Ceux qui veulent lire le rapport du sénateur Colomba sur la crise de 2008 trouveront le lien sur la page internet de cette émission sur le site www.rfi.fr. Merci à Laurent Saniguet de la Sonothèque de RFI et à Guillaume Munier qui assure la réalisation et la mise en onde de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.